le temps dans tous ses états. Un podcast de Conversation France en partenariat avec le CEA. L'année 2020 a vu la planète s'arrêter, notre présent bouleversé. Et si c'était le moment pour réfléchir à nos futurs ?
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le temps dans tous ses états ». Pendant le confinement, vous avez sans doute ressenti un autre rapport au temps. Je pense par exemple aux personnes qui télétravaillaient ou aux plus jeunes qui ne pouvaient plus se rendre à l'école. On est quel jour déjà ? J'ai l'impression que le confinement dure depuis des lustres, ou au contraire que les semaines défilent à une vitesse folle. Vous l'aurez compris, nous allons parler dans cet épisode de notre perception du temps. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir une spécialiste en neurosciences de la cognition humaine, directrice de recherche au CEA et chef d'équipe à l'INSERM, Virginie Van Vassenov. Bonjour.
Bonjour.
Au début du confinement, beaucoup ont été un peu pris de court, ne sachant pas trop comment réagir ni comment s'organiser. Cela n'a pas été votre cas puisque vous avez lancé une étude internationale sur la perception du temps. Comment l'idée vous est venue et comment l'avez-vous mise en place ?
Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, effectivement, au début du confinement, comme tout à chacun, j'étais un peu perdue en me demandant ce qui allait arriver pendant la semaine qui allait venir, ou les quelques jours, ou les quelques semaines. Et je me suis effectivement posé la question de la perception du temps que chacun aurait, sachant qu'il s'agit d'une phénoménologie qui est propre à chacun. Donc, c'est le propre de la perception du temps. Et donc, je me suis posé la question de comment est-ce que l'on pourrait tester cela de manière scientifique, de manière méthodique plutôt. Et donc, j'ai commencé simplement à regarder les outils qui m'auraient permis de tester cela sur le web, en réseau, puisqu'on n'avait pas accès aux outils de laboratoire. Et j'ai commencé à coder. Puis j'ai contacté des collègues à l'international pour savoir si d'autres personnes avaient les mêmes questions que moi, puisque je ne souhaitais pas faire bande à part et essayer d'avoir des collègues qui m'aident un peu dans ce chemin-là. J'ai donc contacté Argyro Vatakis, qui est présidente du Timing Research Forum, qui est un forum dans lequel tous les chercheurs qui sont intéressés par le temps se rejoignent. Et donc, je lui ai demandé si d'autres chercheurs ou chercheuses étaient intéressés par cela et mettaient en place des expériences. Alors, il s'est évidemment avéré que beaucoup de chercheurs étaient intéressés, mais que personne n'avait encore engagé de choses concrètes ou d'outils concrets pour tester la chose. Donc, je me suis engagée à prendre cette responsabilité. Et donc, j'ai continué à coder, à monter un protocole. J'ai contacté d'autres expertises, telles que Claude Gronfier, qui est chronobiologiste à Lyon, INSERM, et qui donc m'a conseillé sur les questionnaires qu'on pouvait utiliser pour mesurer les variations de cycle éveil-sommeil. J'ai également contacté Anne Girsch à l'INSERM, qui avait commencé elle-même un questionnaire qui était plus axé sur le bien-être. Anne Girsch est psychiatre à l'Université de Strasbourg. Et avec elle, on a conçu des questionnaires qui portaient plus sur la représentation du soi. Et avec elle, on a élaboré des hypothèses sur le soi et la perception du temps pendant le confinement.
Justement, combien de temps ça prend, ça, alors, de mettre en place une collaboration nationale et internationale ?
Alors, ça a été effectivement une grande course. Les nuits ont été courtes. Donc, je pense avoir mis à peu près une semaine à deux semaines pour monter et coder le protocole sur un...
Quand vous dites coder le protocole, c'est-à-dire ?
Coder, c'est-à-dire qu'on programme en fait des outils de programmation qui vont permettre de montrer automatiquement les questionnaires aux participants qui seront en ligne ou de les tester sur des protocoles expérimentaux que l'on peut généralement faire en laboratoire, mais que l'on porte en ligne. Et donc, de plus en plus, on a des outils qui sont délocalisés sur les réseaux qui permettent justement de faire des expériences de psychologie sur le terrain et à grande échelle. Donc, j'ai profité de cette opportunité-là. Construit une série de tests et de questionnaires en batterie, en fait, donc une batterie de tests. Tout ça en test a pris à peu près une semaine à deux semaines pour vérifier que tout fonctionnait bien. J'ai tout codé, donc j'ai tout programmé en anglais, dans la langue anglaise, parce que entre-temps, des collègues commençaient à s'intéresser et me demandaient justement s'ils pouvaient reprendre ce protocole dans leur propre pays. Donc en fait, j'ai décidé de faire ça en anglais afin que tous puissent ensuite très simplement traduire dans leur propre langue. Et ensuite, j'ai fait une version française que j'ai lancée un petit peu en avance par rapport aux autres pays. Voilà, et qui a ensuite progressé.
Oui, c'était à quel moment par rapport au début du confinement? Donc, c'est un mois après à peu près?
C'est bien avant ça, en fait. Je pense que c'était en fin avril ou début mars où j'ai lancé les premières versions et où on a eu une très bonne réponse. D'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier les participants à cette étude. Et oui, donc en début, les premières semaines de mars où on a commencé à effectivement engager donc la France, bien sûr, qui était première, et puis ensuite l'Italie, la Grèce, le Japon s'est joint à nous, l'Inde, l'Argentine, les États-Unis, voilà, tout ça très progressivement. Et en suivant, en fait, la vague de Covid. Parce qu'il était ce qui était également intéressant d'observer, c'est que les différentes règles gouvernementales changeaient finalement le type de confinement. Donc à chaque fois, on a dû s'adapter au fur et à mesure sur nos questionnaires pour essayer de prendre en compte la diversité interculturelle.
D'accord, et ça, c'était au libre arbitre un petit peu de vos collègues à l'international, ou vous avez un petit peu un droit de regard sur comment ils vont mener leurs questionnaires dans différents pays?
Oui, ça a été une question très importante. Alors, ça a été une prise de décision pour moi de considérer que la situation était exceptionnelle et que les problématiques d'égo, on va dire, ou de qui a de droit, etc., n'avaient pas à avoir lieu dans ce type de protocole à grande échelle. Donc la toute première chose qui a été faite, c'est que j'ai déjà informé tous les collègues que le protocole serait disponible pour eux entièrement et qu'ils pourraient simplement le traduire. Par contre, ce que je leur ai demandé, c'est que pour chacun des pays, il y ait une autorisation éthique qui soit approuvée soit par les universités auxquelles le chercheur appartenait, soit à l'institut. Ce qui a été fait, donc nous avons eu des accords éthiques dans chaque localité. Et puis, on a construit en fait le protocole de sorte que chacun était libre d'adapter selon les considérations du pays. Donc, par exemple, on avait en Colombie, on a essayé de faire le protocole également. Là, c'était très compliqué pour des raisons socio-économiques. On a essayé de raccourcir le protocole pour que les personnes qui en fait n'étaient pas en mesure d'être confinées, parce qu'elles devaient continuer à travailler. Donc, on a essayé de réduire ça pour essayer quand même d'atteindre et d'avoir des quantifications. Donc voilà, donc on s'est adapté à chaque fois, tous ensemble.
Et très concrètement, votre étude qui s'appelle « Temps confiné », qu'allez-vous étudier exactement? Et sur combien de personnes finalement dans le monde?
Alors, il y avait plusieurs niveaux d'intérêt en fait dans cette étude. L'idée était d'avoir des mesures qui soient à la fois d'ordre questionnaire, donc les cycles éveil-sommeil, la manière dont la personne, le bien-être de la personne, donc des aspects d'anxiété, de dépression, etc., qui documentent. Et puis il y a également des tests expérimentaux que généralement on conduit dans le laboratoire et qui eux vont essayer de quantifier vraiment la psychologie du temps, que ce soit par exemple la perception d'une durée, que ce soit la perception du rythme, de la synchronisation avec les autres, ce genre de choses. Donc le protocole, le premier protocole, la première session est très très ambitieuse puisqu'elle demandait au sujet de passer jusqu'à 3 ou 4 heures de test de manière complètement volontaire pendant la période de confinement. Et une particularité du protocole qui est novatrice par rapport aux autres, c'est que l'on a un aspect longitudinal. Donc en fait, on demande aux personnes, après le confinement, de refaire cette batterie de tests pour avoir un contrôle deux fois. Et au niveau du... Donc actuellement, je regardais ce matin, on a à peu près 150 personnes en France qui continuent sur la deuxième session. Et à peu près dans chacun des pays, on atteint effectivement une centaine de personnes.
D'accord, donc c'est un projet très très ambitieux. En préparant cet entretien, je me demandais en fait comment mesurer la perception du temps chez un individu, puisque cela semble parfaitement subjectif. Est-ce qu'on peut donner des critères objectifs et mesurables?
Tout à fait, et donc c'était le but justement d'essayer d'implémenter des tests expérimentaux plutôt que juste des questionnaires. Donc la problématique des questionnaires, c'est évidemment que les individus vont savoir ce qu'on essaie de mesurer, tandis que dans un test expérimental, on peut manipuler des variables sans que la personne ou l'individu participant s'aperçoive exactement de ce que l'on fait. Donc par exemple, une manière de faire cela dans les protocoles de perception d'une durée, c'est de manipuler la charge cognitive, la charge mentale. Et donc on demande à un participant de s'engager par exemple dans une tâche de comptage où on demande à la personne, OK, on démarre à 102 et vous devez décompter en étapes ou en pas de 7. Et donc, on laisse la personne compter pendant un certain temps et à la fin de cela, on demande combien de temps s'est écoulé. Donc, avec cette manipulation, évidemment, plus le pas est grand et plus la... On ne sait pas aussi linéaire.
Plus le calcul est complexe.
Voilà, plus le calcul est complexe et plus la charge cognitive ou la charge mentale va être compliquée et plus on va interférer sur le temps.
Et qu'est-ce qu'on mesure exactement ? Vous avez des... vous regardez le cerveau, vous posez des questions, c'est un IRM, c'est comment ça marche ?
Alors, dans ce protocole-là, évidemment, comme les personnes sont chez elles, on n'a absolument pas de neuroimagerie. Par contre, les méthodes de psychologie expérimentale nous permettent d'inférer des hypothèses assez fortes sur les représentations mentales du temps que l'individu peut avoir. Donc, par exemple, une tâche toute simple qui avait été faite dans les années 70, c'était justement de poser la question que vous vous êtes posée au tout début, à savoir quel jour sommes-nous. Et lorsque l'on pose cette question en dehors ou pendant la semaine, donc on demande simplement au sujet de reporter lundi, mardi, mercredi. En France, parce que nous sommes tous axés culturellement sur une semaine de 7 jours avec le dimanche qui va être l'ancrage de repos pour tout le monde, culturellement, on va avoir tendance à avoir des temps de réaction dans notre réponse à quel jour sommes-nous qui vont être plus grands le mercredi que le dimanche. Simplement parce que le dimanche est une journée plus importante dans notre semaine ou dans la manière dont nous organisons le temps. Et la toute première étude qui avait relaté cela avait été faite en Israël, où le jour du sabbat était le jour qui était le plus saliant et le plus important dans leur culture. Et pareillement, on voyait que les temps de réaction étaient plus longs, plus on s'éloignait de cet ancrage temporel culturel.
Justement, vous me faites une transition parfaite. Puisque votre étude a une portée internationale, est-ce que l'on sait si notre perception du temps dépend ou pourrait dépendre de notre culture, mis à part ce problème de jour de la semaine?
Au-delà de cela, on sait que dans les différentes cultures, on va avoir une représentation spatialisée du temps. Par exemple, en France, on va avoir tendance à se représenter le futur plutôt en face de nous et le passé derrière nous. En Chine, on va avoir tendance à représenter le futur en haut et le passé en bas. Dans certains pays d'Afrique du Nord, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire que le futur est derrière et le passé est devant. Donc en fait, ces représentations-là, ou cette spatialisation, traduisent une certaine représentation mentale du temps qui diffère à travers les individus. Il y a effectivement cette dimension dans le protocole ou dans l'étude que nous avons conduite, mais à long terme, en fait, nous espérons pouvoir consolider cette collaboration à travers les différents pays et justement pouvoir essayer d'investiguer plus en profondeur ces aspects-là, en dehors du Covid, bien sûr.
Est-ce que vous avez déjà quelques résultats à nous communiquer ou les recherches sont toujours en cours et à ce moment-là, quand est-ce que vous pensez avoir des premiers résultats publiés ?
Alors, les recherches sont effectivement toujours en cours. Il faut aussi réaliser que les chercheurs ont fait ça de leur bonne volonté et que nous avions déjà beaucoup de projets tous en cours. Donc, actuellement, c'est vrai qu'il est un peu difficile de suivre le protocole. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, les participants sont dans la session 2. Il y a normalement 3 sessions au total et une session contrôle. On aimerait avoir un groupe de participants contrôle. Donc, ceux qui sont surtout sur les réseaux sociaux verront sans doute qu'on fait un appel en septembre ou octobre pour avoir un groupe contrôle sur cette étude.
Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on peut savoir ça alors ? C'est les réseaux sociaux de qui ? Du CEA ?
Du CEA, oui, le CEA. Sur le site de Neurospin, sur mon site de laboratoire également sans doute, mais également sur Twitter et Facebook, je pense, CEA est également
D'accord.
là. Je pense que la collecte des données sera définitivement finie avant la fin de l'année. Évidemment, on est tributaire de l'évolution de la situation sanitaire, sur laquelle on n'a aucun contrôle. Donc, s'il y a encore une période de reconfinement, il est possible qu'on adapte le protocole de cette manière-là aussi. Et puis, les premiers résultats, selon aide financière qui permettrait d'avoir des aides au niveau des analyses, j'espère les avoir en début d'année prochaine.
Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Virginie Van Vassenov.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Le Temps dans tous ses états, une série d'entretiens menée par Elsa Couder et Benoît Tonson. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.